Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, la Chine peut-elle accepter sa diversité? La création de la République populaire de Chine, il y a 70 ans, en 1949, a fait évoluer la tradition impériale et nationaliste en inventant un pays où coexistaient 56 minorités. Mais cette volonté affichée de respecter les différences ethniques a été rapidement contredite par les faits. L'ethnie majoritaire Han a imposé ses règles tout en continuant à revendiquer la variété et encore la diversité. Dans cet ensemble, pensé comme une nation unie, les différences doivent être complémentaires pour ne pas provoquer de conflits, ce que le pouvoir actuel reproche par exemple au peuple ouïghour. Nous nous demandons ce soir comment la Chine tente de négocier son rêve d'unicité et d'universalité avec la diversité des ethnies qui vivent sur son territoire. Nous le ferons en compagnie d'Émilie Franquienne, elle est maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris-Est Créteil, chercheuse au LIPA. Elle est autrice de Parler politique en Chine aux presses universitaires de France et elle est membre de la revue La vie des idées. Vanessa Franville sera avec nous depuis Bruxelles et nous remercions donc notre correspondante à Bruxelles de l'y accueillir. Elle est maître de conférences et titulaire de la chaire d'études chinoises à l'ULB à Bruxelles. Avec nous également au téléphone depuis Hong Kong, François Bougon. Il est chef du service international de Mediapart. Il est l'ancien correspondant de l'AFP à Pékin de 2005 à 2010. Et Dilnou Rehan est avec nous en studio ici à Paris. Elle est sociologue à l'INALCO, chercheuse à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, et directrice de la revue Regards sur les Ouïghours et présidente de l'Institut Ouïghour à Paris.
Je sens que je n'ai pas été un bon fils. J'ai toujours dit que je voulais me battre pour Hong Kong et pour moi, pour défendre la liberté. Mais malheureusement, je n'ai pas pris en considération ce que ma famille pourrait ressentir. Je veux dire que je suis désolé. Je ne veux pas rester ici, mais je n'ai vraiment pas le choix. Je ne peux pas sortir. Je suis désolé. Je ne veux pas que vous vous inquiétez. Je voudrais vraiment trouver un moyen de fuir d'ici et vous retrouver.
Voici, c'est un témoignage posté sur Twitter par un étudiant encore retranché sur le campus de Polytechnique à Hong Kong. C'était la sixième journée de siège et c'est issu d'un reportage de l'envoyé spécial de Radio France à Hong Kong. Dominique André, ils étaient plusieurs centaines le week-end dernier. La plupart se sont rendus ou ont fui. Ils sont a priori un tout petit nombre à se retrouver encore sur le site encerclé par la police et ils risquent 10 ans de prison comme émeutiers. Nous sommes avec vous, François Bougon, et merci d'être resté éveillé pour nous depuis Hong Kong. Je rappelle que vous êtes chef du service international de Mediapart. Justement, cette question de l'unité et de la diversité, comment la voyez-vous depuis l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui? Un pays, deux systèmes, c'est ainsi que on dit souvent à Pékin à propos justement de la persistance, de l'existence de cette enclave de Hong Kong dans un pays donc qu'il a récupéré à la fin des années 90. Qu'est-ce qu'on peut penser justement de cette idéal de l'unité telle qu'elle est, disons, avancée par Pékin?
Bah justement, Hong Kong montre d'une manière très immédiate et dans l'actualité à quel point la Chine, en tout cas cette Chine de Xi Jinping, a du mal avec sa diversité. Alors, ce qui est vraiment différent et c'est ce qui est intéressant, c'est que j'en parlais avec des Hongkongais cet après-midi. Sur certains me disaient, contrairement au Xinjiang où là règne vraiment le silence, au moins à Hong Kong on peut s'exprimer. Alors pourquoi? Parce que c'est cette place financière, c'est le statut bien particulier qu'a Hong Kong aujourd'hui. Vous avez parlé d'un pays de système, ce qui fait qu'il est, il a encore la possibilité de s'exprimer. Alors que des minorités opprimées telles que les Tibétains ou les Ouïghours ont énormément de mal à s'exprimer à l'international, à l'étranger. Et donc, moi, c'est ce qui me frappe, c'est ça, pour lancer la discussion, parce qu'après, on pourra aller beaucoup plus loin dans la discussion. Mais je pense que c'est ce qui me frappe dans l'immédiat, c'est que c'est la capacité, en tout cas, à Hong Kong d'être écouté. Vous avez aussi la capacité des médias étrangers de s'y rendre, alors que au Xinjiang ni au Tibet, c'est possible.
Émilie Franquielle, vous êtes avec nous dans ce studio à Paris. Je rappelle que vous êtes universitaire, vous êtes auteur de Parler politique en Chine. Cette question de l'unité, vous la croisez tout le temps lorsque vous travaillez sur ce pays, et en particulier lorsqu'on travaille sur ces universitaires, en particulier que vous avez croisés pour faire Parler politique en Chine, qui évidemment ont un esprit à la fois critique, parce que parfois ils peuvent être critiques, mais aussi patriotique, avec cette idée qu'il y a une Chine qu'il faut défendre.
Tout à fait. Il y a une très très grande diversité au sein de l'intelligentsia chinoise. Il y a une forte unité malgré tout, une fierté d'être chinois, qui est d'autant plus grande que ces 40 dernières années, le Parti communiste chinois a quand même sorti une grande partie de la population de la pauvreté. Les conditions de vie se sont améliorées pour la grande majorité de la population. La Chine est devenue plus puissante. En fait, tout ça, ça répond aux mots d'ordre qui avaient été lancés lors de la création du mouvement nationaliste et de la pensée nationaliste en Chine, en fait, dès le 19e siècle, où on voulait que la Chine soit forte et riche, soit puissante.
Parce qu'elle avait été humiliée par les puissances européennes au 19e siècle en particulier.
Tout à fait, et donc le parti peut se revendiquer, et les intellectuels finalement ne le contredisent pas en général, de se revendiquer, d'être parvenu en fait à ces grands objectifs qui avaient été fixés à ce moment-là.
Ce qui est intéressant, Émilie Frankel, c'est qu'effectivement, souvent, on exalte la splendeur de la civilisation chinoise, alors que dans justement la constitution chinoise et l'invention de cette République populaire de Chine en 1949, on va finir par aboutir à considérer qu'il y a sur ce territoire 56 minorités, enfin 55 minorités et une majorité, les Han, et donc on se dit qu'il y a une sorte de paradoxe à la fois de parler de la civilisation chinoise, donc une civilisation, et de l'autre côté, cette multiplicité que l'on voudrait afficher et qui n'est pas toujours réelle. On y reviendra avec tous les autres participants.
Alors, oui et non. On pourrait dire que c'est paradoxal, mais en même temps, la Chine s'est toujours vue comme un empire, l'empire du milieu, comme étant vraiment au centre du monde, et du coup étant nourrie de diversité et d'échanges, et donc de diverses nationalités, de divers courants de pensée aussi. Même si on parle de culture, de civilisation, enfin, il n'y a pas de pluriel en chinois, enfin, il peut être sous-entendu. On ne dit pas la culture chinoise, ça peut être aussi les cultures chinoises. Et quand il y a un parti unique et en même temps il s'appuie sur d'autres partis, donc cette unité, en fait, elle se fonde sur la diversité, sur le fait qu'il y ait un parti qui rassemble cette diversité.
Vanessa Franville, vous êtes avec nous depuis les studios de Bruxelles, de notre correspondante Angélique Boin. Vous avez écrit un article tout à fait passionnant qui s'intitule justement « L'unité dans la diversité », dans un ouvrage collectif dirigé par Flore Kimmel-Closet et Thomas Mézaros, qui s'intitule donc « Discours sur l'autre ». Et vous y expliquez effectivement qu'il y a tout de même une différence entre cet empire chinois tel qu'il s'est constitué donc historiquement, et puis la République populaire de Chine de 1949, parce que d'une certaine façon, il fallait, c'était du moins le discours, intégrer cette diversité dans cette nouvelle République chinoise, au modèle d'ailleurs qu'il pouvait y avoir du côté de la Russie soviétique, et qu'au bout du compte, ça n'a pas fonctionné, Vanessa Franville.
Oui, tout à fait. Ce que j'essayais d'expliquer, c'est que cette diversité ethnique, elle est évidemment préexistante à la fondation de la République populaire de Chine, mais son institutionnalisation et sa systématisation, si vous voulez, cette diversité, disons, essentielle et centrale dans le discours national chinois, elle est nouvelle en quelque sorte. Elle remonte aux années 50-60, quand on a commencé à classifier de façon administrative la population.
On a envoyé des chercheurs sur le terrain, c'est cela, pour pouvoir dire, on va essayer de classer cette population en différents territoires et en différentes ethnies.
Oui, tout à fait. C'est un système très complexe que Thomas Mulaney, qui est un chercheur américain, a très bien expliqué, d'équipes mixtes qui à la fois se composaient d'administrateurs, de chercheurs ethnologues et d'hommes politiques. Et donc, il explique très bien la façon dont ont été formés de façon quasi artificielle dans la plupart des cas ces groupes qui existaient auparavant, mais dans une grande flexibilité, disons, des identités, et qui sont aujourd'hui des formes culturelles réajustées, standardisées, ce qui crée des clivages très importants.
Dylan Rayan, vous êtes sociologue à l'INALCO, chercheuse à l'ULB également, comme Vanessa Franville qu'on vient d'entendre, et directrice de la revue Regards sur les Ouïghours. Alors voici un peuple, une ethnie, une minorité qui a un territoire, parce que dans cette construction nationale, on donne des territoires à ces minorités. Et Mao d'ailleurs dit une phrase terrible, il dit « Nous disons que la Chine possède un vaste territoire, de riches ressources et une forte population. » En réalité, ce sont les Han qui ont une forte population et ce sont les ethnies minoritaires qui disposent de vastes territoires et de riches ressources. Donc on voit bien déjà l'inégalité dans cette unité formelle, pourrait-on dire. Cette question du territoire, c'est a priori, eh bien on se dit, c'est formidable, on a des ethnies qui gardent ou des populations qui gardent leur identité. C'est pas ce qui se passe au bout du compte, à partir de la création de la République populaire de Chine.
Non, et effectivement... je dirais pas, je vais rectifier. Ce n'est pas la Chine, le gouvernement chinois ou les Chinois qui ont donné les territoires. C'est que en fait, ça appartient. Ils étaient là.
Ils étaient là, bien sûr.
Plutôt les Chinois, les Han, qui sont venus pour s'installer. Et aussi en fait la construction de ces 55 minorités effectivement avec une majorité Han, c'était l'idée déjà enfin de nationaliste Sun Yat-sen qui est le père du nationalisme chinois qui avait, pour lui il y avait seulement 5 grandes de population en Chine, donc en fait avec les turciques, avec la population turque, les Mongols, les Tibétains. Ensuite les Chinois. Donc, en réalité, Mao Zedong, ou alors l'administration de Mao Zedong, ils se sont basés d'abord sur le nationalisme de Xi Jinping,
de Sun
Yat-sen. Et bien entendu, ensuite, à partir des années 50, début des années 50, ils se sont basés sur la politique de Staline, de la gestion des
minorités. Et des nationalités et des minorités. Alors évidemment, le cas de Hong Kong est un cas particulier, puisque vous êtes à Hong Kong, François Bougon, mais vous avez travaillé évidemment depuis Pékin en tant longtemps que correspondant, puis vous avez travaillé sur la personnalité de Xi Jinping. Évidemment, le cas de Hong Kong est un peu particulier, parce que ça n'est pas une population ou une ethnie différente, c'est juste un modèle économique et démocratique peut-être différent aussi. Et là, effectivement, ça pose un problème dans cette unité voulue du territoire chinois.
Oui, alors Hong Kong, c'est une difficulté, je pense, de la part de Xi Jinping de concevoir un pouvoir qui soit autre qu'un pouvoir autoritaire et une difficulté à intégrer une diversité, en fait. Alors, quand vous parlez de l'unité chinoise et de cette construction nationale, moi, il faudrait dire qu'il y a un impensé colonial en Chine. C'est-à-dire, alors, toutes les puissances coloniales ont des difficultés à penser leur histoire coloniale et la France est la première sur ce point-là. Mais la Chine, aujourd'hui, mène une politique coloniale. Et il y a un impensé colonial. Alors, pourquoi il existe cet impensé colonial? Parce que la Chine se vit d'abord comme une victime. Le discours de Xi Jinping, il est pétri de ce discours qui remonte aux années 30, hein, mais de l'humiliation aux mains des Occidentaux, etc. Donc, il y a une incapacité, je dirais, des intellectuels chinois, à part quelques-uns. Il y a Wang Lixiong, par exemple, qui a travaillé sur cette question et sur le Tibet. Mais aucun intellectuel chinois aujourd'hui ne peut comprendre ça, en fait. Les jeunes nationalistes ne connaissent pas leur histoire. Est-ce qu'ils savent qu'il y a eu une république indépendante de Mongolie intérieure en 1911 pendant 2 mois? Il y a eu aussi, bien sûr, aux Ouïghours. Et tout ça aujourd'hui en Chine, c'est très très compliqué. Vous ne pouvez pas, les gens n'ont pas accès à cette histoire-là en fait. Donc ça renforce d'autant plus ce discours sur l'unité nationale, ce discours sur le renouveau impérial, et donc cette impensée coloniale aujourd'hui empêche toute réflexion et toute avancée politique.
Émilie Frankiel, ce discours du nationalisme patriotique, justement, comment s'est-il constitué et comment Xi Jinping l'utilise-t-il aujourd'hui pour pouvoir raconter sa propre histoire et raconter l'histoire de ce pays au quotidien, avec ses tensions internes, avec cette nécessité de mettre fin à ces tensions, parfois par la force, d'autres fois par la négociation?
Vaste question.
Moi, j'ai jamais des questions qui sont simples. Vous pouvez y aller. On vous laisse un peu de temps.
Je vais me concentrer sur la façon dont Xi Jinping utilise ce discours. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on est... on est à un moment où, en fait, c'est là où je vais peut-être nuancer un tout petit peu les propos qui viennent d'être énoncés. On est quand même à un moment où les Chinois n'ont jamais été autant informés, n'ont jamais eu autant accès aux universités étrangères.
Vous voulez dire par le départ de beaucoup d'étudiants qui s'en vont aux États-Unis, en Angleterre, voilà. En Europe, etc., etc.
En fait, ils maîtrisent. Il y a quand même une population assez large qui maîtrise les langues étrangères, même si Internet est vraiment très strictement censuré. Les VPN, la plupart du temps, fonctionnent.
Donc, alors les VPN, il faut expliquer ce que c'est, parce qu'effectivement, ici, on n'en a pas besoin des VPN, mais on en a besoin en Chine.
Voilà, en fait, ce sont des petits, je ne sais pas si on peut appeler ça des logiciels, mais voilà, qui permettent de contourner la censure, en fait. Enfin, on passe par des serveurs étrangers, en fait, et du coup, ça permet de contourner les blocages, de lire les grands journaux, enfin, la presse, comme le New York Times, etc., en Chine. Donc, dans ce contexte-là, il est évident que si ces élites, ces étudiants ou ces chercheurs sont vraiment ont un esprit très patriotique, ils vont filtrer malgré tout ces informations, et puis ils vont peut-être pas les influencer de la même façon. Donc Xi Jinping s'appuie là-dessus, ça lui permet aussi de dire qu'il faut se méfier de cette mythologie de l'excellence des idées libérales, de la démocratie libérale, et ça permet de dire, bah voilà, on est bien informé, on voit ce qui se passe, vous sortez de Chine, vous voyez ce que sont concrètement ces régimes, et vous voyez qu'on n'y vit pas nécessairement mieux que chez nous.
Oui, et ça c'est tout à fait étonnant, parce que cette ouverture, en l'occurrence à l'étranger, parce que beaucoup de Chinois, ça vient d'être dit par Émilie Franquiel, quittent le pays pour aller faire des études et reviennent. Beaucoup d'entre eux reviennent plus nationalistes chinois qu'ils ne l'étaient avant de partir, dit Nour Rayan, alors qu'on pense un peu naïvement sûrement que partir, c'est découvrir les idées des autres, s'ouvrir à la diversité, et qu'au bout du compte, eh bien, beaucoup d'entre eux considèrent que le régime chinois est tout fait bien meilleur, et que cette unité réclamée du peuple chinois à l'intérieur de ses propres frontières, c'est un bon système, puisque cela permet à la fois la prospérité et une certaine harmonie, dit Nour Rayan. Enfin, c'est vu comme ça, en tout cas, c'est présenté comme ça, par l'Est.
Oui, il y a plusieurs raisons pour cela. En effet, quand les étudiants chinois, en général, ils viennent dans les pays étrangers, en tout cas, notamment en France, ce qu'on voit, c'est qu'ils constituent eux-mêmes, entre eux, une société ou alors une communauté. Et ils n'ont pas tellement de rapport avec la société d'accueil. Par exemple, en fait, même pour les revues, etc., ils ne lisent pas les revues ou les journaux locaux, mais plutôt les journaux chinois. Ils consultent les webs chinois et ils habitent ensemble aussi. Ils louent ensemble des logements. Donc, c'est de ce fait, bien entendu, ils sont moins exposés et aussi moins influencés par la société d'accueil. Pour eux aussi, en fait, comme Émilie vient d'exposer cela, la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale, ça leur donne une fierté et ça les enferme encore plus.
Oui, et de toute façon, Vanessa Franville, quand on vous lit dans votre très bon article sur l'unité dans la diversité, on apprend que même cette exaltation de la diversité des populations de cette Chine, de la République populaire de Chine créée par Mao et ses compagnons, eh bien, elle était souvent une exaltation fictive, que c'était l'idée d'une Chine universelle et autocentrée, et qu'au bout du compte, cela montrait plutôt un monde en soi, c'est-à-dire que c'était ce monde en soi de la Chine qui se donnait à voir à l'étranger, se donnait à voir à elle-même par l'exaltation des tenues folkloriques des populations conquises ou gardées à l'intérieur de cette Chine populaire. Mais qu'au bout du compte, ça n'allait pas beaucoup plus loin que cela. Ce qui va plus loin aujourd'hui, c'est effectivement la répression sur certaines de ces minorités.
Oui, effectivement, il y a très peu d'espace. Il n'y a jamais eu beaucoup d'espace pour ce que j'appelle les non-Han, c'est-à-dire donc c'est ce que la Chine appelle les minorités. Moi, j'aime pas trop ce terme de minorité. Ils sont minoritaires que parce qu'on les a classifiés comme ça. Donc cette réification des non-Han, leur mise en avant sous forme de costumes, de figures qui sont souvent féminines ou des enfants, ça fait partie d'un discours beaucoup plus vaste qui ne fait pas attention au contenu, mais plutôt à la forme de ce discours. Donc il y a une fierté, j'ai envie de dire, un peu comme en France aussi, quand on présente une certaine forme de
folklore,
de diversité folklorique. Regardez les Bretons, regardez les Basques, c'est ça la France, c'est ça la diversité française. On peut aller à la montagne, on peut aller à la mer, on peut aller partout. Et donc on a ce discours qui existait en France au 19e siècle, qui n'existe plus sous ses formes, heureusement, mais qui existe toujours de façon très très forte en Chine. Donc quand on présente la Chine, on présente la Chine dans toute sa diversité, mais la diversité n'a d'intérêt que si elle s'aligne sur une certaine vision unitaire de la Chine.
Et cela, évidemment, François Bougon, ça n'est pas non plus pour rien qu'on fait la comparaison, comme vient de le faire Vanessa Franville, avec la France. Nous aussi, on a eu un problème longtemps et on a toujours un problème avec cette diversité sous l'égide d'une république qui n'était pas communiste, mais d'une république donc telle que nous la connaissons depuis maintenant plus d'un siècle. Avec cette idée, que fait-on justement de cette variété? Comment la faire entrer dans ce cadre unitaire?
Oui, alors moi, il y a un petit livre que je vous recommanderais de Jean-François Bitter qui s'appelle « Chine trois fois muette ». Et il explique très très bien à quel point il y a une difficulté aujourd'hui, puisque le peuple chinois est très très mal connu. Parce que quand on parle du peuple chinois, et Émilie Frankel l'a signalé au début, c'est-à-dire que c'est une invention, c'était une définition administrative, c'était les sujets de l'empereur. En gros, les Han, c'était les sujets de l'empereur. Et les révolutionnaires du début du XXe siècle l'ont transformé en une définition ethnique ou raciale. Et pourquoi? Parce qu'il leur fallait un peuple Han pour fondement de leur nationalisme. Et donc, on en est là. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous lisez le New York Times ou Le Monde ou les journaux étrangers que ça change votre vision. C'est pas pour ça que vous allez déconstruire le roman national. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec Xi Jinping, ce roman national, il est omniprésent. Vous êtes dans une exaltation de la grandeur de la Chine, de la fierté de la Chine. Vous êtes dans une exaltation, une récupération d'une histoire impériale. Et cette histoire impériale, elle a été marquée par un pouvoir transcendant, en fait. La domination venait du haut. Donc, on vous donne, par exemple, des catégories comme la Chine, les Chinois, etc., et sans essayer de les déconstruire. Quand j'ai commencé à étudier le chinois, mon professeur avait inventé une méthode, et ça commençait par la phrase suivante. Chongguo hen ta, zhebun hen xiao. Et c'était la Chine est grande, le Japon est tout petit. Et en fait, c'est intéressant parce que vous voyez aussi les sinologues aujourd'hui sont complètement là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont vous parler de la Chine, des Chinois, des notions d'unité, etc., etc., mais sans essayer de déconstruire cette construction nationale, cet espace naturel chinois dont on parle. Il est bienvenu de quelque part. Il n'est pas arrivé comme ça d'un coup de baguette magique. Donc il faudrait commencer par ce travail-là. Il est fait à l'étranger de plus en plus, heureusement, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de... C'est ce que moi j'appelle l'impensé colonial, c'est-à-dire qu'on a du mal à le penser. Alors pourquoi aujourd'hui on découvre qu'il faut le penser? Parce que la Chine, non seulement elle mène une politique coloniale, comme je disais, à l'intérieur de ses frontières, mais elle est aussi dans une politique... alors je sais pas comment la qualifier, si c'est néocolonial, disent certains africains, ou néo-hégémonique, comme dirait Timothy Brook dans son dernier livre sur
le léopard de Kubilai Khan.
Donc exactement. Donc en fait, la présence de plus en plus forte de la Chine à l'extérieur nous oblige, nous quand même, à penser cette Chine.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un temps du débat consacré à la Chine, peut-elle accepter sa diversité? Nous venons d'entendre à la fois l'hymne chinois, la marche des volontaires et Glory to Hong Kong, donc le chant composé par un anonyme au mois d'août dernier, largement repris dans les manifestations à Hong Kong et ici par un orchestre et un chœur dont tous les membres, ils ont été filmés, sont masqués parce qu'ils ne veulent pas voir reconnaître leur visage. Cette question est une question essentielle, pourrait-on dire, que de se demander justement comment jouer entre différences, complémentarités et conflits, Émilie Frankiel. On voit bien que on a à la fois les différences peuvent être agrégées pour faire un territoire national qui respecte chacun et chacune, mais que parfois on entre dans le conflit. C'est ce qu'on voit pour l'instant du côté des Ouïghours avec les révélations du New York Times le week-end dernier, ou du côté de Hong Kong avec ce qui est en train de se passer à l'université, mais aussi dans les rues de Hong Kong, Émilie Frankiel.
Je pense que finalement, ce qui unit la Chine et ce qui peut peut-être permettre aussi de comprendre ces questions qui finalement sont très différentes aussi, c'est qu'on a un parti unique qui fait tout pour survivre. Et pour survivre, il essaie à la fois il réprime. Mais il ne peut pas seulement réprimer, sinon c'est impossible en fait, de tenir un peuple d'1,4 milliard, 400 millions d'habitants. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de se présenter comme un parti légitime et le meilleur gouvernement possible actuel. Donc il y a des conflits, mais ces conflits, à partir du moment où ils vont être présentés, donc comme à Hong Kong, où ils sont présentés vraiment comme une menace directe à la survie non seulement du parti, mais du régime. Les manifestants sont présentés comme étant d'une violence inouïe qui refuse totalement
de négocier. Et surtout, on dit qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la Chine, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas récupéré la totalité de cette histoire telle qu'elle est racontée sur les territoires chinois, et qu'ils seraient donc de mauvais Chinois parce qu'ils ne la connaissent pas, cette histoire aussi.
C'est même pas seulement que ce seraient des mauvais Chinois, c'est qu'ils refusent d'être des Chinois. Et ça, vraiment, c'est quelque chose. Donc, c'est là où il faut comprendre cette unité. C'est qu'en fait, derrière, il y a 1,4 milliard de Chinois du continent qui observent et qui regardent ce qui se passe. Quand on fait quelque chose d'aussi blasphématoire, voire obscène, finalement, dans le contexte chinois, qu'est-ce qui se passe? Comment réagit le gouvernement central?
Et ça, c'est une véritable question que nous allons aborder avec nos autres invités d'ici la fin de cette émission. Auparavant, je vous propose justement d'écouter le témoignage subi. Il est Ouïghour, il est réfugié en France. Il a été rencontré par Hugo Boursier pour une enquête publiée dans Libération. Il s'exprime ici dans une vidéo Combini News.
Le gouvernement chinois ne nous donne pas le droit de vivre, le droit de l'homme. Et le gouvernement chinois met des Ouïghours dans les centres de concentration pour faire travailler gratuitement, séparer les familles. Le gouvernement chinois, ils ont des plans détruits, supprimer l'identité des Ouïghours.
Voilà ce que dit Soubi, Ouïghour réfugié en France. Alors évidemment, vous êtes particulièrement intéressé à cette question en tant que directrice de la revue Regards sur les Ouïghours et présidente de l'Institut Ouïghour à Paris, en tant que chercheuse également, dit Nour Reyhan, parce que cette situation des Ouïghours a évolué avec ces enquêtes, celle d'Hugo Boursier dans Libération pour ce qui se concerne la France, mais également avec ces enquêtes que l'on a pu voir dans le New York Times, qui montrent effectivement l'ampleur de la répression sur le territoire ouïghour et la volonté justement de, dit-on, d'effacer la mémoire, la culture et une vision que pouvaient avoir les Ouïghours de leur propre identité.
Oui, les Ouïghours, même avant que ce système de camps de concentration dans la région Ouïghour...
Qui naissent en 2017.
Fin 2016, début 2017. Déjà, les Ouïghours criaient à l'injustice et d'être traités de citoyens de seconde zone dans leur propre territoire et qu'ils étaient traités par l'administration chinoise comme ethnie illégitime. Ils ont toujours, depuis 70 ans de colonisation, la Chine a toujours essayé d'effacer cette identité, mais par des mesures administratives, par des mesures différentes et dans des périodes différentes aussi. dans les années 80, entre dans les années 80 et 90, il y a eu un moment de relax pour toute la Chine, non seulement pour les Ouïghours, mais pour toute la Chine, d'où il y a eu un développement de littérature ouïghour qui a contribué aussi soit aux naissances de ce nationalisme chez les Ouïghours aussi, également. Et là, cependant, enfin, de nouveau, à partir de des années 90, la Chine a réessayer ou en tout cas en fait renforcer ces mesures de sinisation de plus en plus à partir des années 90 et que pour arriver finalement il y a 3 ans pour opter pour cette politique radicale d'enfermer les Ouïghours ou en tout cas tout Ouïghour qui peut représenter enfin l'identité ou la l'identité ouïghour.
Ou la différence par
rapport. Ou la différence, voilà, qui peuvent représenter la différence ouïghour, mais aussi, en fait, toute expression de la culture ouïghour.
Et cela, évidemment, ça va à l'encontre, Vanessa Franville, de cette idée d'une nation multiethnique unifiée, puisque c'était comme cela qu'on voulait présenter cette nouvelle nation à partir de la Seconde Guerre mondiale.
C'est-à-dire que tout discours alternatif, je pense que je vais reprendre ici ce que disait Émilie Franquiel, elle a raison, tout discours qui dit « nous, on se sent moins chinois ou pas chinois du tout », est un discours qui menace dans les termes chinois la stabilité nationale. Et donc les Ouïghours, pendant très longtemps, ont maintenu un discours à la frontière de ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des Ouïghours extrêmement bien intégrés qui ont été très fiers d'être chinois, d'avoir un passeport chinois dans le sens où ils appartenaient à une nation qui connaissait une énorme croissance économique, qui prenait une place sur la scène internationale importante, etc. Mais c'est un rêve qui n'a pas duré longtemps et c'est une illusion qui a vite disparu puisque ça n'a pas pu s'accompagner d'espaces qui permettaient un discours alternatif tel que « je suis Ouïghour, et chinois ». Et aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est de dire « je suis chinois ». On est passé de « je suis ouïghour et chinois » à « vous devez dire je suis chinois et ouïghour » et aujourd'hui « je suis chinois tout court ».
Si on revient sur le territoire de Hong Kong où vous trouvez encore François Bougon en tant que directeur de ce qui est du service international de Mediapart, on se pose une question tout de même, depuis tant de temps que on manifeste, que les étudiants, mais aussi l'ensemble de la population descend dans les rues, et qu'il y a cette contestation que l'on voit, on est étonné parce que on entend les spécialistes de la Chine qui disent à un moment, il faudra bien que Pékin ne va pas hésiter à envoyer des militaires, à les mettre à contribution pour pouvoir réprimer ces manifestations. Or, on s'aperçoit que peut-être est-ce dû aussi à la mobilisation internationale, au regard du monde entier sur cette péninsule de Hong Kong, ça ne se passe pas. Comment peut-on expliquer cela, justement, François Bougon ?
Je pense qu'il y a plusieurs explications. Il faut d'abord souligner que la mobilisation, elle est massive. Hein. Ce n'est pas que 50 personnes violentes dans l'univers. Il y a eu plus de 2 millions sur 7 millions d'habitants qui sont descendus. Je pense qu'il y a plein d'explications, mais la première explication, c'est que le pouvoir central à Pékin laisse d'abord l'exécutif hongkongais essayer de régler le problème avec une répression policière assez forte, avec l'espoir qu'ils vont arriver à venir à bout de cette mobilisation. Mais plus vous tapez, c'est ce dont on s'en rend compte quand on vient ici à Hong Kong, plus vous tapez sur les gens et plus les gens sont révoltés. Le fond du problème à Hong Kong, il est politique. Il n'est pas socio-économique ou social, il est politique. C'est-à-dire que
c'est la question des deux systèmes, justement. C'est justement de maintenir cette alternative.
Bien sûr. Et alors, comment expliquer ? C'est ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, vous avez des enquêtes régulières sur comment se définissent les Hongkongais. En 2008, la majorité des Hongkongais se définissaient comme chinois. Il y avait une fierté quand on regardait sur les écrans géants, les Jeux Olympiques, etc. Aujourd'hui, cette tendance s'est renversée. Pourquoi ? Parce que aucun des engagements politiques, démocratiques, notamment sur l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif ou du conseil législatif, n'ont été respectés par Pékin. Donc en fait, c'est C'est aussi cette question politique qui est au cœur de la mobilisation. Après, vous avez plein de questions, et notamment sur le fait que les Hongkongais ont un système bien particulier et ils ont peur d'être complètement, de devenir une ville chinoise comme une autre, en fait. Vous avez cette fierté d'avoir un système judiciaire indépendant, d'être une place financière où on peut signer des contrats qui sont respectés. C'est ce qu'on vous dit ici. Nos contrats sont respectés, ce qui n'est pas le cas en Chine. Donc, vous avez ça, ce mélange entre des valeurs occidentales et puis une culture chinoise très très forte.
Et ça veut donc dire, Émilie Frankel, que cette ouverture au monde, vous nous décriviez ces étudiants qui partent et qui reviennent parfois plus nationalistes ou plus patriotes qu'ils n'étaient partis de leur propre territoire, c'est aussi un regard porté du monde sur la Chine et que ça n'a pas aucune importance en l'occurrence. Il y a une importance à ce regard porté sur la Chine aujourd'hui.
Oui, bien sûr, c'est très important. Il y a beaucoup de réactions de l'opinion chinoise face à des propos, enfin une médiatisation.
Et de réactions positives et négatives ou toujours négatives?
Souvent négatives. Maintenant, il faut aussi que je fasse attention. On parle de diversité.
Bien sûr.
Dans l'unité, l'opinion chinoise est aussi très diverse. Et c'est aussi.
C'est-à-dire que ça n'est pas simplement ce qu'on appelle à Pékin les sentiments du peuple chinois, avec des petits guillemets pour dire l'opinion publique, c'est nous qui la décidons,
Les Chinois sont très nombreux. L'opinion est très diverse. Et puis, ceux qui s'expriment sont aussi une minorité. Et déjà chez nous, on voit qu'on n'en entend que certains. Il y a vraiment une majorité silencieuse qui est elle-même très diverse. En Chine, en contexte de répression, c'est encore plus le cas.
Oui, et si on conclut avec vous, Dino Rayan, on pourrait se dire que peut-être si on s'engageait plus pour la cause des Ouïghours à l'étranger, peut-être ça aurait le même effet que ce qui se passe pour l'instant à Hong Kong, c'est-à-dire le maintien d'un statu quo momentané, peut-être, on ne sait pas, dans la situation des Ouïghours, et peut-être une prise de conscience aussi qu'il ne faut pas aller trop loin de la part du régime de Pékin.
Dans le cas des Ouïghours, la différence avec Hong Kong, tout à l'heure François Bougon l'a souligné, c'est que c'est totalement différent et que Pékin n'hésite pas, n'a déjà pas hésité en mettant plusieurs millions de personnes dans des camps. Donc je ne sais pas, Pékin ira où si l'opinion internationale se réveille sur la question des Ouïghours. Et je pense qu'en fait, on a bien vu, depuis ces trois dernières années au moins, l'opinion internationale et la pression internationale a joué en faveur des Ouïghours seulement. Et la Chine a toujours essayé de changer de méthode, changer de stratégie, changer de discours vis-à-vis de l'international sur la question Ouïghours. Donc je pense que l'opinion internationale doit se réveiller, doit faire plus de pression contre la Chine.
Merci à tous les quatre. Merci à vous, Émilie Frankel. Je rappelle que votre livre s'intitule « Parler politique en Chine sur les intellectuels chinois et la démocratie ». Vanessa Franville, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis les studios de notre correspondante à Bruxelles, Angélique Boin, que nous remercions de vous avoir accueilli. Merci François Bougon d'avoir veillé aussi tard du côté de Hong Kong, et on vous souhaite un bon reportage, une bonne suite de reportages pour Mediapart de votre côté. Et merci à vous, Dino Rayan, d'être venu avec nous pour parler justement de cette cause Ouïghour. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André. À la technique aujourd'hui, Julien Calvas. À la vidéo, Swad Boukorza. Et à la réalisation, Marie-Laure Ciboulet.